Vous écoutez, on lit pour vous.
Plus qu'une lecture. Les livres en langue étrangère redessinent les bibliothèques. Un texte de Jean-Philippe Giroux, publié le 22 décembre 2025 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Farsi, Hindi, Punjabi. La demande pour les livres n'étant ni en anglais ni en français dans les bibliothèques de la Nouvelle-Écosse est en hausse, surtout parmi les populations de nouveaux arrivants. Un effort de la part des bibliothécaires visant à soutenir l'apprentissage dans toutes les langues, mais aussi un engagement envers la diversité, d'équité et d'inclusion. C'est le résultat de l'évolution démographique observée au cours des 5 dernières années due à l'immigration, pointe Mansi Nishit Trivedi, bibliothécaire des services techniques de PARL, Pictou-Antigonish Regional Library, et directrice de succursale à la Bibliothèque publique de New Glasgow. Il y a différentes personnes venant de différentes parties du monde qui aiment apprendre une nouvelle langue, telle l'anglais, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, mais qui souhaitent également rester en contact avec leur langue maternelle, maintenir un lien avec leur littérature et transmettre leur culture à leurs enfants. SamePage, le partenariat provincial entre les 8 régions en dehors de la municipalité régionale d'Halifax, MRH, est à l'œuvre depuis 2 ans afin de finaliser son projet d'expansion de ses collections numériques multilingues, une initiative financée par un programme provincial. Le pré-lancement du projet, un ajout aux collections imprimées dans les 80 bibliothèques régionales, a eu lieu en octobre, suivi d'un lancement officiel en décembre et d'une promotion en ligne. Je suis passionné par les langues et les cultures. Je viens moi-même d'un pays riche en culture et en langues. En Inde, on parle plus de 300 langues. J'ai donc grandi en parlant 3 langues différentes. L'anglais est techniquement ma 4e langue. J'ai toujours été fasciné par les gens qui parlent différentes langues et j'ai essayé d'apprendre quelques phrases quand c'était possible. Mansi Nishit Trivedi. Selon la communauté, chaque équipe régionale devait évaluer les priorités pour sa communauté et essayer d'identifier les langues de la majorité de ses membres. Mansi Nishit Trivedi, dans son coin de la province, a collaboré avec l'Association multiculturelle du comté de Pictou ainsi que les responsables de cercles de conversation locaux. Un cercle de conversation est un espace destiné au dialogue et à l'échange sur des sujets entre membres d'une communauté et peut prendre différentes formes. Dans ce contexte, l'on parle d'un groupe de discussion entre nouveaux arrivants, dont le but est de pratiquer l'anglais oral dans un environnement décontracté et sans stress, et approfondir leur compréhension de la culture et du milieu de travail canadien, selon le site Internet de l'Association des services aux immigrants de la Nouvelle-Écosse. Dans la région de Pictou-Antigonish, 18 langues, y compris le français, ont été sélectionnés pour les collections virtuelles. Les données du dernier recensement ont permis de déterminer, hormis l'anglais et le français, quelles sont les 10 langues les plus parlées, à savoir l'arabe, le chinois, l'allemand, l'hindi, le coréen, le polonais, le punjabi, l'espagnol, le russe et l'ukrainien. À Halifax, qui a son propre système de bibliothèque publique, 40 langues sont représentées, mentionne Erin Morris, gérante du développement des collections de Halifax Public Libraries. Ce dernier se concentre sur les langues les plus parlées dans les communautés et tente de créer des collections solides dans ces langues. La liste des langues évolue au fil du temps, à mesure que les communautés de Halifax changent elles aussi. Nous nous efforçons sans cesse de répondre aux besoins des différentes communautés au sein de la grande région métropolitaine d'Halifax. Et une façon de faire cela est à travers la création de collections qui répondent aux besoins, à la lecture de plaisir et aux besoins d'information de chacun au sein de notre communauté. Bien que la collection multilingue d'Halifax a pris de l'expansion au fil des dernières années, les premiers documents multilingues remontent au milieu des années 90, à l'époque où Halifax Public Libraries a vu le jour, à la suite de la fusion entre Halifax, Dartmouth et le comté de Halifax. De plus, dans certaines régions où les cultures fondatrices, Mi'kmaq, acadienne, gaélique, sont davantage dominantes ou influentes, les collections dans ces langues sont plus volumineuses. Cela dépend vraiment du public et de la communauté de cette bibliothèque en particulier, précise Nishit Trivedi. Elle peut être différente de toutes les autres bibliothèques, mais nous faisons de notre mieux pour diversifier autant que possible la collection. Le soutien des fournisseurs travaillant avec Overdrive, le plus grand fournisseur de livres électroniques, de magazines électroniques et de livres audio au monde, il était clair pour Mansi Nishit Trivedi et ses collègues qu'il fallait commencer par conclure des accords avec les fournisseurs et les éditeurs. Après 2 ans de travail sur le projet, nous avons enfin conclu suffisamment d'accords avec les fournisseurs, déclare Nishit Trivedi. Un projet qui donne aujourd'hui un accès instantané à plus de 335 000 titres numériques en 10 langues provenant de 15 000 éditeurs à travers le monde. À Halifax, une panoplie d'outils ont été utilisés pour développer ces collections, des palmarès aux listes de prix littéraires. Pour développer celles en français, les fournisseurs canadiens tels que Renaud Bré et les maisons d'édition régionales comme les éditions Bouton d'Or Acadie ont été d'une grande utilité. L'on examine aussi les collections d'autres bibliothèques publiques au Canada, en particulier celles qui possèdent une collection française plus importante comme la Bibliothèque publique d'Ottawa ou le Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, afin de voir ce qu'elles ajoutent et ce qui est populaire dans ces établissements, explique Erin Morris. Dans certaines collections des bibliothèques d'Halifax, comme celle en français, l'on mélange des œuvres initialement écrites et publiées dans la langue originale, mais également des livres traduits de l'anglais. Ayant lu le livre en anglais et souhaitant apprendre le français, les lecteurs choisissent parfois le même livre en français, retrace Morris. Connaissant déjà l'histoire, une relecture dans cette autre langue les aide à approfondir leur connaissance de celle-ci. Pour les collections en langues étrangères, c'est une autre histoire. Halifax Public Libraries travaille avec le fournisseur Multicultural Books and Videos, MCBV, en leur donnant des critères correspondant à ce qu'ils recherchent, tels que la dite langue, la tranche d'âge, le genre littéraire et les dates de publication, par exemple. MCBV, par la suite, travaille avec des éditeurs du monde entier pour acheter ou obtenir du matériel qui correspond au goût du lectorat. Acheter du matériel multilingue est un processus long, donc il, le fournisseur, travaille avec des éditeurs dans les différents pays et ils le font également pour les bibliothèques à travers le Canada, dit Maurice. Donc, avoir ce point central, qui coordonne en quelque sorte tous ces achats auprès des éditeurs d'autres pays, permet de rationaliser ce processus. Pour apprenants et amateurs, le partenariat Samepage voulait aussi évaluer la qualité de ses collections numériques multilingues. Il était important pour les bibliothécaires d'inclure bien plus que des manuels de langue, en ajoutant, entre autres, de la fiction et de la non-fiction pour les amateurs de livres. C'est notamment en identifiant les membres de ces communautés qui parlent les langues respectives que l'équipe a pu améliorer ses collections numériques multilingues. Ensuite, bien sûr, ce projet a pris un peu plus d'ampleur, poursuit Mansi Nishit Trivedi, car j'ai pensé que je devrais acheter des livres imprimés en anglais qui représentent des histoires d'immigrants, de réfugiés. Ils s'identifient beaucoup à ces histoires. Et ils aiment lire des récits sur les immigrants, leur expérience lorsqu'ils s'installent dans un autre pays. C'est aussi de choisir des titres familiers aux locuteurs de ces langues. Des gens viennent s'installer ici depuis les quatre coins du monde et parfois, ils aiment relire des ouvrages qu'ils ont déjà lus dans leur pays d'origine. Quand ils les trouvent dans leur langue, dans une bibliothèque, dans un autre pays, ils aiment les lire et les relire. Je pense que c'est parce qu'ils ont un lien particulier avec leur langue. Halifax Public Libraries, en plus de son offre de livres imprimés, de livres électroniques et de livrelles, offre un accès aux journaux d'autres pays. Par exemple, un nouvel arrivant peut accéder à travers nos ressources en ligne aux journaux de ses pays ou villes d'origine, et cela peut être une manière qu'il se sent connecté à sa famille et à l'actualité qui se passe d'où il vient. « Back home », selon Erin Morris. Nous proposons également divers programmes tout au long de l'année, des programmes destinés aux nouveaux arrivants, mais aussi de juste créer un environnement accueillant pour que n'importe qui franchit nos portes puisse trouver quelque chose pour eux, qu'il s'agisse d'un livre à lire, d'un film à regarder, d'un programme auquel participer ou d'un nouvel ami à se faire, conclut-elle. C'était plus qu'une lecture, les livres en langues étrangères redessinent les bibliothèques, un texte de Jean-Philippe Giroux, publié le 22 décembre 2025 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Pour réduire le risque de démence, une étude révèle qu'il faudrait consommer régulièrement du fromage. Une réponse inattendue à un défi sanitaire mondial. Un texte de Laurie Henry, paru le 24 novembre 2025 dans Science et Vie. Alors que le vieillissement de la population mondiale accélère, la démence s'impose comme un défi sanitaire majeur. En 2025, plus de 50 millions de personnes en sont atteintes, un chiffre appelé à tripler d'ici 2050 selon l'OMS. Le Japon, avec l'un des taux de vieillissement les plus élevés, est en première ligne. 12,3% de ses habitants de plus de 65 ans vivent déjà avec la maladie. Face à l'absence de traitement curatif, l'attention se porte sur les facteurs modifiables, notamment l'alimentation. Une étude publiée en octobre 2025 dans la revue Nutrients et menée par des chercheurs du Centre national de gériatrie et de gérontologie de l'Université de Nimi et de l'Université de Chiba apporte un éclairage inattendu. Une consommation hebdomadaire de fromage pourrait modestement réduire le risque de développer une démence, une piste alimentaire intrigante dans un pays où le fromage reste marginal. Une étude rigoureuse sur une population vieillissante. L'étude s'appuie sur une cohorte japonaise représentative et robuste. 7 914 personnes âgées de 65 ans ou plus, vivant à domicile, sans antécédent de certification en soins de longue durée. Elle repose ainsi sur les données du programme JAGE, Japan Gerontological Evaluation Study, de 2019 à 2022. Les participants ont été répartis équitablement entre deux groupes. D'un côté, ceux consommant du fromage au moins une fois par semaine. De l'autre côté, ceux n'en mangeant jamais. Pour réduire les biais, les chercheurs ont appliqué une méthode de propensity score matching. Elle permet de créer des groupes statistiquement comparables sur des variables clés telles que l'âge, le sexe, les revenus, le niveau d'éducation, l'état de santé auto-évalué et les capacités fonctionnelles. Les chercheurs mesurèrent la survenue de démence via les certifications administratives d'assurance dépendance, un indicateur couramment utilisé au Japon. En trois ans, 134 personnes, 3,4% parmi les consommateurs, ont développé une démence, contre 176, 4,5% chez les non-consommateurs. Cette différence, bien qu'apparemment modeste, correspond à une réduction de 24% du risque relatif. Les chercheurs insistent. Il ne s'agit pas de démontrer une causalité, mais d'observer un lien suffisamment solide pour justifier des investigations supplémentaires. Dans un contexte de vieillissement accéléré, cette étude contribue à identifier des leviers accessibles pour prévenir la démence à l'échelle de la population. Une composition nutritionnelle favorable à la santé cérébrale. Les auteurs suggèrent plusieurs mécanismes biologiques pouvant expliquer l'association observée. Bien que l'étude ne mesure pas directement ces mécanismes, elle s'applique sur des connaissances établies sur les nutriments présents dans le fromage, notamment dans ses versions fermentées. Le fromage constitue une source de vitamine K2, nutriment liposoluble. Il joue un rôle essentiel dans la santé vasculaire et le métabolisme du calcium. Or, des troubles vasculaires, comme l'hypertension ou l'athérosclérose, sont réputés augmenter le risque de démence, en particulier la démence vasculaire. La vitamine K2, en régulant la calcification vasculaire, pourrait ainsi contribuer directement à la protection cognitive. Le fromage apporte également des protéines et des acides aminés essentiels. Ils soutiennent le fonctionnement neuronal. Certains peptides bioactifs libérés lors de la fermentation pourraient exercer des effets anti-inflammatoires ou antioxydants. Il s'agit de deux voies biologiques fortement impliquées dans le déclin cognitif. Autre piste explorée par les chercheurs, le microbiote intestinal. Le fromage fermenté, comme le camembert ou le brie, contient des probiotiques capables de moduler l'axe intestin-cerveau. De nombreuses études ont établi un lien entre déséquilibre du microbiote et pathologies neurodégénératives, y compris Alzheimer. Cependant, dans cette étude japonaise, 82,7% des participants déclaraient consommer du fromage transformé. Ce dernier se montre moins riche en probiotiques et nutriments bioactifs que les fromages affinés. Seuls 7,8% consommaient des fromages à moisissure blanche. Cela indique que les bénéfices observés pourraient être liés à des effets cumulés plus subtils de l'alimentation dans son ensemble ou à d'autres composants encore mal identifiés dans les produits laitiers. Une alimentation révélatrice de comportements de santé globaux. L'analyse secondaire menée par les chercheurs a permis d'ajuster les résultats en fonction des habitudes alimentaires générales des participants. Ceux qui mangeaient du fromage avaient aussi tendance à consommer plus souvent des fruits, des légumes, de la viande ou du poisson. Or, ces aliments se voient eux-mêmes associés à un meilleur vieillissement cognitif. Cette observation soulève une question essentielle. L'effet protecteur provient-il du fromage lui-même ou reflète-t-il une alimentation globalement plus équilibrée? Pour y répondre, les auteurs ont intégré ces variables dans un modèle statistique complémentaire. Après ajustement, la réduction du risque de démence associée au fromage passe de 24 à 21 %. Un effet légèrement atténué, mais toujours significatif. Cela suggère que le fromage pourrait jouer un rôle spécifique au-delà d'un simple marqueur de régime alimentaire sain. La fréquence de consommation a aussi son importance. 72,1% des participants déclaraient en manger une à deux fois par semaine. De fait, un apport modéré semble suffisant pour produire un effet observable à l'échelle populationnelle. D'autres facteurs comportementaux pourraient entrer en jeu. Les consommateurs de fromage présentaient également de meilleures fonctions dans les activités instrumentales de la vie quotidienne. Courses, gestion de l'argent, préparation des repas et une moindre fréquence de plaintes mnésiques. Ces éléments pourraient indiquer un meilleur état cognitif de départ, non totalement contrôlé par les analyses. Limites de l'étude et perspectives pour la recherche et la santé publique. Si cette étude constitue une contribution sérieuse au débat scientifique, elle comporte des limites méthodologiques importantes que les auteurs eux-mêmes reconnaissent. D'abord, la consommation de fromage ne fut évaluée qu'une seule fois au début de l'étude, et sans prise en compte des quantités ni des évolutions dans le temps. Il demeure donc impossible de déterminer un seuil optimal de consommation ou d'évaluer un effet cumulatif. Ensuite, les données sur la démence proviennent de fichiers administratifs liés aux certifications d'assurance dépendance et non de diagnostics médico-cliniques. Cela limite la précision des données, notamment pour distinguer les différents types de démence. Autre limite majeure, l'absence de prise en compte de facteurs génétiques comme l'APOE4, gène connu pour augmenter le risque de maladie d'Alzheimer. Sans cette donnée, il reste difficile d'évaluer dans quelle mesure l'effet observé s'applique à toutes les catégories de population. Enfin, le contexte japonais mérite d'être souligné. Le fromage s'y trouve peu consommé, 2,7 kg par an par personne, bien en deçà des niveaux observés en Europe. Il se peut donc que de faibles variations d'apport aient un impact plus marqué dans cette population que dans des pays où la consommation reste plus élevée. Cela limite la généralisation immédiate des résultats. Malgré ces réserves, les auteurs estiment que les résultats peuvent guider des actions de santé publique. En particulier, ils encouragent la recherche sur les effets spécifiques des différents types de fromages, la durée de consommation et les interactions avec d'autres facteurs de risque. À terme, ces travaux pourraient nourrir des recommandations alimentaires ciblées pour le vieillissement cognitif. C'était, pour réduire le risque de démence, une étude révèle qu'il faudrait consommer régulièrement du fromage, une réponse inattendue à un défi sanitaire mondial. Un texte de Laurie Henry, paru le 24 novembre 2025 dans Science et Vie.
Le pouvoir des PME féminines. Un texte de Maude Goyer, paru le 31 octobre 2025 dans La Presse. Plus résilientes, plus ouvertes, plus soucieuses d'inclusion, les femmes entrepreneurs sont des leaders en innovation et en durabilité. Qui plus est, la croissance des PME qu'elles détiennent est plus soutenue que celle des entreprises de leurs homologues masculins. C'est l'un des points qui ressortent du rapport du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat 2025, dirigé par Tania Sabat, professeure à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. U de M. Dans les entreprises détenues majoritairement par des femmes, le taux d'innovation globale est plus élevé, explique celle qui est titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance. Les femmes percent de plus en plus dans les domaines de la fabrication, de la construction, en agriculture et en ressources naturelles. La proportion de PME détenues majoritairement par des femmes est en hausse. De 15,6% en 2017, elle était à 20,9% en 2024. À leur tête, les femmes sont très instruites, et elles le sont de plus en plus. Parmi les PME dirigées par une personne qui détient une maîtrise ou un diplôme supérieur, 26,6% sont détenues majoritairement par des femmes, comparativement à 17,3% en 2017. Elles sont performantes, dit Mme Sabat. Par exemple, en 2020, les PME, majoritairement détenues par des femmes, représentaient 16,8% de toutes les PME au Canada, mais 19,2% des emplois dans ces entreprises. Et c'est en hausse constante. Un parcours fulgurant. Ces entreprises ont généré 90 milliards de dollars en revenus et créé près de 1 million d'emplois, ajoute l'experte. Elle enchaîne en précisant que les femmes percent non seulement en innovation, mais aussi en marketing, en adoption de processus, en opération et en production. Tout va bien, donc, pour les femmes entrepreneurs? Non. Mais la professeure souhaite changer le discours. « Je veux, dit-elle, qu'on parle de l'impact des femmes d'entrepreneurs et des femmes en affaires, et non pas seulement d'obstacles et de barrières. » Tara Akavan, présidente directrice générale de A14EYES, est du même avis. À 40 ans, cette immigrée iranienne a un parcours aussi inclassable que vertigineux. Elle accumule les prix, les innovations, les succès, les rôles dans des secteurs variés et des entreprises de toutes les tailles. Elle a travaillé et vécu dans 4 pays et créé des équipes internationales de 250 personnes. Je fais partie de toutes les minorités, lance-t-elle en riant. Je suis immigrante, j'ai fait ma place en étant très jeune et je suis une femme. Sexisme, âgisme, racisme, nommez tout ce que vous voudrez, j'ai été la cible. Il faut parler de cash. Loin de jouer la victime, Madame Akavan prêche pour la diversité. Elle en a constaté les bénéfices à maintes reprises. Monter une équipe avec des gens issus de la diversité, c'est difficile. Les gens sont différents, ils ont des visions différentes et des historiques différents. Mais quand on met les efforts pour que ça fonctionne, cela rapporte 10 fois plus de valeur à l'entreprise, indique-t-elle. Et je ne parle pas juste de valeur sociale ou d'entraide, je parle d'argent, je parle de business. Si elle avait une baguette magique, elle aimerait que les femmes ne doutent plus, qu'elles aient une confiance illimitée. Les femmes, affirme-t-elle, sont capables d'accomplir des choses incroyablement difficiles et complexes. Elles peuvent diriger sous une pression extrême et livrer des résultats grandioses. Eva Hartling, fondatrice de l'agence Femmes de marque, a rencontré et interviewé plus de 300 entrepreneurs au cours des 6 dernières années dans le cadre de son balado. Son constat? Il faut cesser de parler de tables rondes, de réseautage, d'ateliers de mentorat lorsqu'on parle de soutien pour les femmes en affaires. Il faut parler de cash, affirme-t-elle. Libérez des fonds pour soutenir l'entrepreneuriat féminin et admettez l'impact des entreprises détenues par des femmes. Elles ont un impact social, environnemental, durable. Elles améliorent le sort du monde. Trop prudent? Selon la stratège en entrepreneuriat féminin Déborah Cher Enfant, il faut changer les codes du monde de la finance pour éliminer les biais systématiques. Quand il est question de demander du financement, dit-elle, que ce soit des subventions, des prêts à la banque, du capital de risque, les femmes sont discriminées depuis tellement d'années. Cela change, mais très lentement. La professeure Tania Saba le confirme. Les prêts demandés par les femmes sont 2,5 fois moins élevés que ceux demandés par les hommes. En effet, les femmes demandent en moyenne des prêts de 100 000 à 150 000 $ comparativement à 450 000 chez les hommes, selon le rapport du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat 2024. Les femmes se font plus souvent poser des questions quant à leurs compétences, souligne-t-elle, comme si on contestait leur légitimité. Les hommes, eux, se font parler de développement des affaires. Pour Tara Akavan, une partie de la solution passe par l'entraide entre femmes. Au fil des années, j'ai attiré au Canada et embauché de 20 à 25 femmes, toutes titulaires de maîtrise ou de doctorat, raconte-t-elle. Je crois à la force du réseau, fournir des efforts pour se comprendre et s'aider. Peut-être qu'il est temps que l'on crée un Girls Club. C'était « Le pouvoir des PME féminines », un texte de Maude Goyer, paru le 31 octobre 2025 dans la presse.